Vous écoutez, on lit pour vous.
Ils ont marqué le premier quart de siècle, un texte collectif paru le 2 janvier 2025 dans la presse. Pour chaque année du premier quart de siècle, nous avons identifié une personnalité qui a fait jaser. Replongez dans vos souvenirs et retrouvez ou découvrez des visages que vous aviez peut-être oubliés. Louise Arel, en 2000. La ministre péquiste Louise Arel pilote les fusions municipales qui donnent naissance aux grandes villes que l'on connaît aujourd'hui. Cette législation comptera parmi les grandes réformes mises de l'avant par les différents gouvernements du Parti québécois, dit le premier ministre Lucien Bouchard, le jour de l'adoption de la loi. Tommy Chouinard, La Presse. 2001. Maurice Mombouché, après avoir mené les Hells Angels dans une décennie de guerre avec les Rock Machines, Maurice Mombouché est arrêté en mars 2001 dans une vaste intervention policière nommée Opération Printemps 2001. Il sera déclaré coupable d'une tentative de meurtre et de 2 meurtres prémédités pour avoir ordonné l'assassinat de 3 gardiens de prison. Mort en 2022, à l'âge de 69 ans, il était condamné à la prison à vie. Fanny Arcan, La Presse. 2002, Roger Thibault et Theo Wouters. Le 18 juillet, ces amoureux de longue date deviennent le premier couple gay à s'unir civilement au Canada. Ce n'est pas encore un mariage, mais la loi instituant l'union civile, adoptée par Québec le mois précédent, accorde aux conjoints presque tous les mêmes droits qu'aux personnes mariées. Ariane Kroll, La Presse. 2003, Jean Chrétien. Le 17 mars, après des semaines d'intense pression, le premier ministre Jean Chrétien annonce aux communes que, sans nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le Canada n'ira pas en guerre en Irak. 3 jours plus tard, la coalition américano-britannique pilotée par George W. Bush attaque l'Irak. Ariane Kroll, La Presse. 2004. Nathalie Simard. En 2004, Nathalie Simard parvient à piéger l'homme qui l'a agressée sexuellement alors qu'elle était âgée de 7 à 11 ans. Elle enregistre à son insu son impresario, Guy Cloutier, au moment où il lui avoue ses crimes et tente d'acheter son silence pour 300 000 $. Arrêté en mars 2004, Cloutier plaidera coupable à 5 des 7 chefs d'accusation à l'égard de 2 victimes. Bien avant #MeToo, Nathalie Simard a bataillé pour que la honte change de camp et pour inciter les femmes violentées à porter plainte. Louise Leduc, La Presse. 2005. John Gomery. John Gomery remet en 2005 le premier de 2 rapports de la commission Gomery qu'il préside sur le scandale des commandites, certainement l'un des feuilletons les plus populaires des derniers mois au pays. Son talent de vulgarisateur aura incité les Québécois à suivre passionnément et en direct le détricotage du vaste détournement de fonds orchestré par les libéraux de Jean Chrétien et à ne rien manquer du déculottage en règle des principaux acteurs de l'affaire. Pas moins de 300 millions, dont 100 millions au profit du Parti libéral, ont fait l'objet d'une gestion corrompue. Louise Leduc, La Presse. 2006, Françoise David. Leader féministe, Françoise David cofonde un nouveau parti politique, Québec solidaire, QS. Amir Kadir devient le premier député de QS en 2008. Madame David le rejoint à l'Assemblée nationale en 2012. Elle se démarque en 2016 avec la loi Françoise David qui protège les aînés locataires contre les évictions, rare texte législatif de l'opposition adoptée par le gouvernement. Tommy Chouinard, La Presse. 2007. Gérard Bouchard et Charles Taylor. La crise des accommodements raisonnables secoue le Québec. Elle pousse le gouvernement Charest à créer la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. C'est la fameuse commission Bouchard-Taylor, du nom des deux coprésidents, le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor. Déposée en 2008, leur rapport fait débat à l'Assemblée nationale pendant des années. Tommy Chouinard, La Presse. 2008. Véronique Yvon. Élue en 2008, Véronique Yvon est connue comme la marraine de la loi autorisant l'aide médicale à mourir. Dans l'opposition, elle est vice-présidente de la commission spéciale « Mourir dans la dignité » 2009-2012, exercice transpartisan qui fera des petits. Ministre du gouvernement Marois, elle dépose le projet de loi sur les soins de fin de vie en 2013. Le gouvernement Couillard fait adopter la loi l'année suivante. Tommy Chouinard, La Presse. 2009. Claude Robinson. La Cour supérieure condamne les bandits à cravate ou à jupon qui ont contrefait le personnage de Robinson Curiosité à verser 5,2 millions de dollars à son créateur, Claude Robinson. Cette victoire pour le droit d'auteur sera confirmée en Cour suprême en 2013, contrairement aux indemnités revues à la baisse. Ariane Kroll, La Presse. 2010, Jack Layton. Le 5 février, le chef du nouveau Parti démocratique entreprend des traitements contre le cancer de la prostate sans quitter la politique. 15 mois plus tard, suscitant une vague orange sans précédent, il fait élire 103 députés, dont 59 au Québec, et devient chef de l'opposition officielle. Mais à la fin de cet été 2011, un mois après avoir annoncé un nouveau cancer, le bon Jack rend son dernier souffle. Ariane Kroll, La Presse. 2011. France Charbonneau. Les médias révèlent, depuis 2009, des histoires de corruption et de collusion. Après s'y être longtemps opposé, le gouvernement Charest finit par créer, en 2011, la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Elle est présidée par la juge France Charbonneau. Après des audiences très suivies, la commission Charbonneau remet son rapport en 2015. Tommy Chouinard, La Presse. Vous écoutez, ils ont marqué le premier quart de siècle, un texte collectif paru le 2 janvier 2025 dans La Presse. 2012, Jean Charest, Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins. Le premier ministre libéral Jean Charest conserve le pouvoir pendant 9 ans, 2003-2012, remportant 3 élections générales. Il le perd en 2012, année de la grève étudiante surnommée « Le printemps érable » et menée par Léo Bureau-Blouin, Martine Desjardins et Gabriel Nadeau-Dubois. La course est serrée. Le PQ, minoritaire, récolte 31,95% des voix et 54 sièges. Le PLQ, 31,2% et 50 sièges. En 2007-2008, Jean Charest est à la tête du premier gouvernement minoritaire au Québec depuis 1878. Tommy Chouinard, La Presse. 2013, Colette Roy-Laroche. 47 victimes, une municipalité endeuillée, défigurée par un train fou laissé sans surveillance, gorgé de 7,7 millions de litres de pétrole brut. La tragédie de Lac-Mégantic, en 2013, a à tout le moins révélé au monde une mairesse impressionnante de dignité et d'aplomb, Colette Roy-Laroche, la voix étranglée par l'émotion, résumant le sentiment général. Très vite, habitée par son devoir de prendre soin de ses citoyens, cette ancienne enseignante montrera la route avec un leadership et une humanité saluées de toutes parts. Louise Leduc, La Presse. 2014, Pauline Marois. Pauline Marois brise un plafond de verre. Elle devient en 2012 la première femme élue première ministre du Québec. Elle est la cible d'un attentat le soir de sa victoire. Elle se retrouve à la tête d'un gouvernement minoritaire. Elle déclenche des élections en 2014 et s'incline devant les libéraux de Philippe Couillard. Tommy Chouinard, La Presse. 2015, Omar Khader. Capturé à l'âge de 15 ans par des soldats américains après un échange de coups de feu en Afghanistan, Omar Khader, un Canadien, est emprisonné à Guantanamo et au Canada pendant près de 13 ans. Il est libéré sous caution en mai 2015, malgré les efforts du gouvernement canadien pour le garder emprisonné, et reçoit, 2 ans plus tard, une indemnité de 10,5 millions de dollars pour la violation de ses droits constitutionnels. Fanny Arcan, La Presse. 2016. David Saint-Jacques. Après des années d'entraînement, en 2016, le rêve de David Saint-Jacques se réalise enfin. L'Agence spatiale canadienne annonce qu'il fera partie d'une mission vers la Station spatiale internationale, SSI, en novembre 2018. Il devient ainsi, 2 ans plus tard, le 9e astronaute canadien à s'envoler dans l'espace et le 6e à poser le pied dans la SSI. Chloé Bourquin, La Presse. 2017, Valérie Plante. Lorsqu'elle défait le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, aux élections municipales du 5 novembre 2017, Valérie Plante devient la première femme à occuper cette fonction à 43 ans. Elle était conseillère municipale depuis 2013 et chef du parti Projet Montréal depuis 2016. En 2021, elle obtient un 2e mandat. Madame Plante a annoncé à l'automne 2024 qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat aux élections de novembre 2025. Isabelle Ducas, La Presse. 2018, François Legault. François Legault brise l'alternance du pouvoir entre libéraux et péquistes qui se perpétuait depuis près d'un demi-siècle. La Coalition Avenir Québec, le parti qu'il a fondé en 2011, forme pour la première fois le gouvernement. M. Legault est réélu en 2022 avec une majorité encore plus forte. Tommy Chouinard, La Presse. 2019. Joshua Bengio. Joshua Bengio reçoit en juin 2019 le prestigieux prix Turing 2018, considéré comme l'équivalent du prix Nobel en informatique. Fondateur du MILA et professeur à l'Université de Montréal, le chercheur est reconnu comme l'une des sommités mondiales en intelligence artificielle et, plus particulièrement, en apprentissage profond. Chloé Bourquin, La Presse. 2020, Joyce Echaquan. Septembre 2020, dans une vidéo filmée en direct, une mère de famille atikamekw, à l'agonie, enregistre les propos dénigrants dont elle est victime au centre hospitalier de Lanaudière. La coroner, Jeanne Kamel, conclura que sa mort aurait pu être évitée et qu'elle a été victime du racisme systémique anti-autochtone qui sévit dans les institutions québécoises. Élaboré à la suite de consultations publiques, le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. Louise Leduc, La Presse. 2021, Farah Alibé. Le 18 février 2021, Perseverance se pose sur Mars. Sur Terre, Farah Alibé fait partie de l'équipe aux commandes du robot. Chaque jour, elle planifie les prochaines étapes de son itinéraire sur la planète rouge. Cette année-là marque un tournant dans la carrière de l'ingénieur, très engagé à montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent briser le plafond de verre et viser les étoiles. Chloé Bourquin, La Presse. 2022. Horacio Arruda. Le 10 janvier, le directeur national de santé publique remet sa lettre de démission, citant « une certaine érosion de l'adhésion de la population ». Après 22 mois de pandémie, son chapeau de sous-ministre adjoint faisait de plus en plus d'ombre à ses avis et la sympathie suscitée par ses tartelettes s'était depuis longtemps essoufflée. Ariane Kroll, La Presse. 2023, Hubert Reeves. C'est le 13 octobre 2023 que s'est éteint, à l'âge de 91 ans, Hubert Reeves. Ce grand vulgarisateur scientifique a consacré sa vie à faire progresser la recherche en astrophysique et à rendre les sciences accessibles au plus grand nombre. Ses ouvrages, notamment « Patience dans l'azur » et « L'heure de s'enivrer », ont connu un succès mondial. Chloé Bourquin, La Presse. 2024, Jeannette Bertrand. Journaliste, comédienne, auteure, dramaturge et féministe, Jeannette Bertrand a été omniprésente en 2024, à la veille de son 100e anniversaire. En plus d'avoir publié un nouveau livre, « 100 ans d'amour », elle a vu se réaliser une œuvre murale à son effigie dans le Centre-Sud. Grande progressiste, elle a marqué le Québec en traitant avec franchise, dans son travail, d'enjeux sociaux comme l'homosexualité, la violence faite aux femmes et le VIH-SIDA. Fanny Arcan, La Presse. C'était « Ils ont marqué le premier quart de siècle », un texte collectif paru le 2 janvier 2025 dans La Presse.
Le dépanneur qui est là où il faut et où il n'y a rien d'autre. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 20 mai 2024 dans La Presse. L'idée de départ. Il n'y avait plus de dépanneur à Saint-Léandre, un village d'environ 360 habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Matane en Gaspésie. Dans le bois, pas en bord de mer. Camille Terrien-Tremblay est une entrepreneure qui y vit. Elle a vu tous les commerces de son village fermer un à un. Le dépanneur était le dernier à mettre la clé sous la porte en 2021. Son entreprise, CAM Construction, se spécialise en micro-habitation. On crée des espaces de vie qui vont aller avec la nature des activités qu'il va y avoir dans le bâtiment, explique Camille Terrien-Tremblay. Par exemple, des loges pour artistes lors d'événements, des prêts à camper, des micro-chalets, des mini-maisons, des bureaux d'accueil touristique. On a cette capacité d'être créatif selon l'usage du bâtiment. Dans le vide créé par la fermeture du dépanneur, elle a vu une occasion d'affaires, mais aussi une occasion d'éliminer les déserts alimentaires, ces endroits où on ne peut pas, à une distance raisonnable, trouver des aliments de base. Camille Terrien-Tremblay a fait des recherches pour voir ce qui se faisait ailleurs dans le même créneau. Elle est tombée sur une entreprise suédoise qui fait des dépanneurs et qui a grandement inspiré son modèle d'affaires. Elle a ensuite fait le tour des programmes possibles pour appuyer son prototype, qui est aussi un projet pilote. Elle a notamment eu droit à des fonds réservés aux régions dévitalisées, à des bourses d'entrepreneuriat, à des subventions de développement, puis à l'appui de la municipalité qui a fourni le lieu sans frais. Tout cela a permis de financer 90 % des coûts de fabrication et de lancement, autour de 150 000 $. L'innovation. À l'été 2023, le village de Saint-Léandre a récupéré son dépanneur avec l'arrivée du Petit Lib, un mini-commerce libre-service aux dimensions d'un conteneur. Le commerce est accessible en tout temps et on y retrouve des produits de base alimentaires, hygiéniques, de soins et d'entretien. Besoin d'un œuf à la dernière minute pour faire son gâteau? Le commerce contient un frigo et un congélateur. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour bâtir un repas complet et les classiques bonbons et croustilles, essentiels à tout dépanneur qui se respecte. Les ventes changent selon les heures du jour ou de la nuit, avec une hausse de demande pour le prêt-à-manger congelé autour des heures de repas, du lait le matin et de snacks tard le soir ou à la fin du party. Depuis son ouverture l'été dernier, 378 clients différents y sont allés, dont une partie venant d'ailleurs que Saint-Léandre, puisque 30% de la population locale ne fait pas partie de la clientèle. Le dépanneur est alimenté par une génératrice. Il fonctionne en cas de panne, ce qui n'est pas rare au village apparemment. Il y a aussi un espace Wi-Fi. Quand il y a une tempête et qu'on ne peut plus sortir du village, dit la jeune entrepreneure, le dépanneur fonctionne. Les défis. Le client utilise son téléphone pour entrer dans le commerce, puis pour balayer le code du produit et régler la facture. C'est très pratique, mais ça peut être un frein pour une partie de la population qui n'a pas de téléphone portable ou qui n'est pas à l'aise avec le paiement électronique. Lib va ajouter un système de cartes prochainement pour cette clientèle. La main-d'œuvre n'est toutefois pas un enjeu. Il faut un seul employé pour entretenir le dépanneur et faire les commandes, ce qui représente environ 5 heures par semaine. Les aliments qui approchent la date de péremption sont congelés, ce qui limite les pertes. Les commandes ont été ajustées durant les premiers mois d'utilisation et lorsqu'il y a des invendus, ils sont remis au comptoir du village ou à l'école. L'avenir. Le micro-commerce pourrait bien se multiplier car les demandes sont nombreuses partout au Québec, principalement dans des régions qui se retrouvent avec une situation comparable à celle de Saint-Léandre. C'est incroyable le nombre de dépanneurs qui ferment au Québec, dit Camille Thérien-Tremblay. Une version sur roue va être réalisée pour faire la tournée de la Gaspésie afin de montrer le produit. On s'est dit que si ça fonctionnait à Saint-Léandre, ça pouvait fonctionner partout, dit Camille Thérien-Tremblay. Et ça fonctionne. Le dépanneur est rentable. J'ai bon espoir qu'après en avoir ouvert un ou deux autres, la demande va exploser. C'était Le dépanneur qui est là où il faut et où il n'y a rien d'autre, un texte de Stéphanie Bérubé paru le 20 mai 2024 dans La Presse.
De quoi se méfier? Bientôt, un texte de Julie Roy, paru le 29 février 2024 dans La Presse. Au pays, 75% des sommes déclarées en perte au Centre antifraude du Canada sont liées aux fraudes informatiques. Les arnaqueurs, qui ont souvent recours à des stratagèmes connus, utilisent de plus en plus la technologie et un mélange de techniques astucieuses pour faire tomber leurs victimes dans leurs filets. 4 tendances à suivre. Professionnalisation des messages. Vous avez gagné un prix. Vous avez reçu un colis. Un virement vous attend, etc. Ce type d'hameçonnage n'est pas nouveau et pollue autant les boîtes de courriel, les cellulaires que les réseaux sociaux. Mais les fraudeurs ont plus d'un tour dans leur sac et raffinent leur technique. La qualité des attaques augmente. Les fraudeurs vont par exemple utiliser ChatGPT pour écrire leurs messages afin d'avoir un français impeccable. Ils font aussi des attaques plus ciblées localement en usurpant à la perfection les logos des entreprises d'ici. C'est sans parler de tout ce qui entoure l'actualité qui sert à attraper les victimes, comme lors du versement de chèques gouvernementaux, illustre Marc-Olivier Kilijian, professeur au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Attaque à plusieurs volets. Autre stratagème de plus en plus sophistiqué, l'attaque combinée, soit un mélange de deux types de fraudes. On voit souvent des cas qui commencent sur des sites de rencontres. Les fraudeurs envoient des messages texte aléatoires. Si la victime répond, le fraudeur poursuit la conversation et tente d'établir une relation avec elle. Dans certains cas, le fraudeur convainc la victime d'investir dans une fausse plateforme de crypto-monnaie, raconte Jeff Horncastle, agent de sensibilisation à la clientèle et de communication au Centre antifraude du Canada. Recours à l'intelligence artificielle. Les fraudes pour de faux investissements représenteraient 309 millions de dollars, soit 50 % des pertes déclarées au Centre antifraude du Canada. Le recours à l'intelligence artificielle, IA, pour créer de fausses vidéos avec des célébrités n'est pas étranger à l'augmentation du nombre de victimes. Il y a eu le cas de Justin Trudeau et d'Elon Musk qui incitaient les gens à investir dans une crypto-monnaie. Le problème dans ce dernier cas, c'est que l'homme d'affaires a déjà, par le passé, encouragé certaines de ces monnaies. Alors, il est difficile pour un internaute de distinguer ce qui est vrai du faux, nous dit Jeff Horncastle. Même si l'usurpation de la voix par l'intelligence artificielle est encore marginale, des cas de fraude de type grands-parents ont été rapportés. Celle-ci consiste à se faire passer pour un membre de la famille en utilisant sa voix truquée grâce à l'IA et ainsi faire croire à un accident ou à une arrestation. L'objectif, réclamer de l'argent, bien souvent à une personne âgée. Attaques en boucle. Il est peu probable que les victimes de fraude retrouvent un jour leur argent, mais il y a pire. Une fois qu'elles ont mordu à l'hameçon, il est probable que leur nom va se retrouver sur une liste et qu'elles seront la cible d'autres attaques. Elles ont souvent perdu des sommes importantes. Les fraudeurs vont entrer en contact avec ces gens en se faisant passer pour des policiers ou agents d'Interpol. Ils vont leur faire croire qu'ils veulent les aider en échange de sommes d'argent, soutient Jeff Horncastle. Quelques trucs d'experts. Si c'est trop beau, méfiez-vous. Se donner un code entre les membres d'une même famille pour vérifier que l'on parle bien à ses proches. Dans le doute, ne pas cliquer sur des fichiers joints. Se méfier des courriels et des textos qui demandent de donner des informations personnelles ou un numéro de suivi. C'était « De quoi se méfier ?» Bientôt, un texte de Julie Roy, paru le 29 février 2024 dans la presse.